Ce message s'intitule « Es-tu prêt pour la venue de l'époux ?» L'urgence que je sens, c'est que la venue du Seigneur est proche. Et vraiment, j'étais saisi cette semaine en me disant que le temps est court et que le Seigneur revient. Sa venue, elle est annoncée, elle est inéluctable et tu dois te préparer. Et moi aussi. Et tu dois te préparer, mais sans attendre. Es-tu prêt ? Si Jésus arrive là, maintenant, es-tu prêt ? Est-ce que ta vie est alignée ? Est-ce que tu es prêt ? Voilà la question que je veux te poser ce matin, que je veux nous poser tous ensemble, chacun individuellement. Je vous propose de lire ensemble Matthieu au chapitre 3, les versets 1 à 12. Si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas. Nous allons lire deux textes ce matin, et ça c'est le premier des deux. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous, c'est changer de vie, hein ? Changer de vie, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée ou la hache, déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. La première question pour toi ce matin, est-ce que tu as changé de vie ? Je pense que nous serions tous étonnés de savoir combien de chrétiens, ou combien de personnes en tout cas, fréquentent régulièrement une église, parfois même assidûment, parfois même depuis des années, sans forcément avoir fait un changement réel dans leur vie en suivant Jésus. Et je suis d'autant plus confiant de dire une telle chose que les 10 ou 15 premières années de ma vie, j'avais choisi Jésus, mais je n'étais absolument pas certain de mon salut. Si on me disait, si quelqu'un était venu me voir pour me dire « Es-tu sauvé ?», j'aurais dit « Je ne sais pas trop ». Parce que j'ai choisi Jésus, mais je fais aussi des choses un peu comme je veux. Il y a plusieurs choses dans ma vie. Il y a Jésus, mais il y a d'autres choses aussi qui ne sont pas tout à fait alignées. Et j'ai réalisé, dans un temps qui a été assez intense pour moi, que devenir chrétien, c'est pas accepter une philosophie, c'est pas juste se faire des amis, mais c'est choisir le Christ. C'est faire un choix qui dit « je meurs à moi-même et je donne ma vie à Jésus », c'est-à-dire qu'elle lui appartient. On dit souvent « mourir à soi-même » pour revivre avec le Christ. C'est le symbole du baptême. Je meurs avec Christ, je ressuscite avec Christ et je suis une nouvelle création. Et ça implique que ma vie à l'intérieur, elle a changé. Alors je te pose cette première question ce matin. Est-ce que tu as changé de vie? Est-ce que tu as accepté Jésus? Et je le fais, c'est bizarre de dire ça dans une assemblée de chrétiens peut-être, mais je sais que parmi nous, il y en a sans doute qui peut-être se posent la question de leur salut. Et je ne voudrais pas que tu repartes ce matin sans avoir choisi Jésus. C'est un choix radical, ce n'est pas un choix innocent. C'est un choix entier, c'est un choix plein. Et puis ce changement, ce n'est pas un changement extérieur. C'est d'abord un changement à l'intérieur de toi. Et on voit très bien dans ce passage qu'il y a des pharisiens et des sadducéens, c'est-à-dire les chefs religieux de l'époque. On parle pas, quand on parle de pharisiens, souvent on imagine que c'est des ennemis. Mais ce n'est pas le cas. Les pharisiens et les sadducéens, ce sont des autorités religieuses reconnues, des dirigeants du peuple qui sont censés être du côté de Dieu. Mais ils ont fait un mauvais choix. Ils ont fait le choix de se dire, tiens, le baptême là, tel qu'ils font, ça a l'air bien, on va faire pareil. Mais à l'intérieur, les choses n'ont pas changé et Jean-Baptiste est assez sévère avec eux. Leurs motivations ne sont pas les bonnes. On ne sait pas exactement pourquoi ils sont venus, mais avec la suite de l'histoire, on a un peu des indices. Il y a une forme d'hypocrisie. Jésus dira d'eux qu'ils sont comme des tombeaux blanchis, bien beaux à l'extérieur, mais morts à l'intérieur. Est-ce qu'ils ont pensé qu'en faisant cet acte-là, ils allaient être justifié sans avoir à changer à l'intérieur? Et toi, quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui te pousse à agir? Est-ce que tu fais les choses parce que tout le monde le fait? C'est pas parce que tu viens à l'église avec ton équipement de chrétien, ta Bible et ton sourire, même pas parce que tu es assidu aux réunions que tu seras sauvé. Moi, je suis fils de pasteur, je suis petit-fils de pasteur, je suis neveu de pasteur. Eh bien, je vais vous dire une bonne chose, ça ne me sauve pas. Amen. Ça ne me sauve pas, parce que ce n'est pas mon étiquette qui compte. Ce que Jésus voit, c'est ton cœur. Regardez comme les pharisiens viennent dire « Mais nous sommes enfants d'Abraham. Pourquoi tu nous parles ainsi ? Ce que nous vivons, d'être du côté de Dieu, ça nous est dû. » C'est un peu ça qu'ils disent. Mais il leur dit non. De ces pierres-là, c'est-à-dire de tous les hommes, en fait, de n'importe qui, Dieu peut faire un enfant. Et d'ailleurs, il a pris avec lui des personnes comme vous et moi, qui sont loin d'être parfaites, qui ont eu des vies compliquées, mais qu'il a graciées et qu'il a choisies pour ses fils et ses filles. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup, et ça m'attriste, beaucoup de chrétiens se disent « Nous avons fait ce qu'il faut, donc nous serons approuvé. » Mais en réalité, nous ne méritons rien. Tout est par grâce. Il me semble que les mots, que l'échange que Jésus a eu avec ce jeune homme riche résonne encore dans les églises d'aujourd'hui. Maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai accompli la loi. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Je suis chrétien, je suis allé à l'église, j'ai lu ma Bible, j'ai donné de l'argent, un peu, ok. J'ai fait ce qu'il fallait. Et le Seigneur Jésus répond quoi? Il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as. Tu t'amasseras un trésor dans le ciel. Et puis viens et suis-moi. C'est fort. Ça, c'est dans Marc 10, versets 20 à 21. J'ai fait ça, j'ai accepté au début de ma vie chrétienne tout ce qui était agréable de la vie chrétienne. Tout ce qui me plaisait. J'ai pris les amitiés. J'ai pris la fierté de mes parents. J'ai pris le fait d'avoir un ministère, de chanter dans un groupe de louanges. Tout ça, c'était sympa. Donc j'ai pioché, mais à un moment donné, le Seigneur il m'a dit, mais c'est toi que je veux. C'est ton cœur que je veux. C'est ta vie que je veux. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne, prendre juste ce qui te semble agréable et supportable, une certaine forme d'honorabilité. Pourtant, tu as envie de faire ce qui est juste. Mais Jésus te dit aujourd'hui, laisse ces choses. Viens et suis-moi. L'image que j'aime bien prendre, c'est que c'est la voiture. Pendant les 15 premières années de ma vie, j'étais assis dans ma voiture avec mon volant. Je conduisais, donc ma voiture, c'est ma vie. Et j'ai dit au Seigneur, viens dans ma vie. Et il s'est assis côté passager. Et c'est bien, c'est chouette. Puis au bout d'un moment, il te dit, et peut-être qu'il te dit ce matin, maintenant laisse-moi le volant. Et tu passes côté passager. Oh, ow. Eh bien, je peux vous dire que, on dit oui, bien sûr. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Et j'ai fait cela dans ma vie. À un moment donné, j'ai lâché l'affaire. J'ai dit, Seigneur, tu prends le contrôle. Ma vie a totalement changé. Complètement. Pas du jour au lendemain, mais avec le recul, je me dis, ouais, quand même. Plein de choses ont changé. Il m'a guéri de nombreuses choses. Je ne peux pas être hypocrite avec vous. J'étais dans le ministère, j'étais visible, j'étais reconnu dans ce que je faisais. J'étais responsable d'un groupe de louanges dans une église très connue à l'époque, le Point du Jour à Paris. Mais il y avait des choses dans ma vie qui étaient cachées, mais que le Seigneur voyait. Non pas qu'il voulait me condamner, mais il voulait m'en guérir. Et peut-être que tu as besoin à l'intérieur de toi d'être guéri de certaines choses. Mais pour cela, tu dois lui laisser le contrôle de ta vie. Suis Jésus. Et puis il y a le baptême du feu. Jésus vient, et quand Jésus vient, c'est un baptême de Saint-Esprit et de feu. Ouais. Non? Ouais, c'est un petit... C'est oui, mais quand même, quoi. Un baptême, vous savez ce que ça veut dire, baptiser? Immerger. Merci, Anne-Hélène. Immerger. Eh bien, ce qui précède la venue du Seigneur, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. On n'y coupera pas. Alors on pourrait s'en réjouir, mais on sent bien aussi que c'est sérieux, que c'est quelque chose qui pourrait nous submerger. De grands changements se préparent, mes frères et mes sœurs, dans le corps de Christ, dans notre génération et la suivante. Nous sommes en train de vivre des bouleversements. Mais, comme dit la parole, ce ne sont que les premières douleurs de l'enfantement. Ces choses sont annoncées, mais sommes-nous prêts ? Ne sommes-nous pas englués dans des habitudes comme l'étaient les pharisiens qui les empêchaient de voir ce que Jésus était en train de faire alors qu'il était déjà là au milieu d'eux ? On a parlé, Bernard en a parlé, du fait d'accepter que Jésus nous bouscule. Je dis oui et amen, et je dis même, il faut qu'on soit prêt. On ne peut pas attendre ça. Si on attend passivement, on va être pris par surprise. C'est maintenant qu'il faut nous préparer pour ne pas nous retrouver du mauvais côté. Nos cœurs ont besoin d'être préparés pour la venue du Seigneur. C'est étonnant qu'il y ait eu besoin d'une préparation. Jean-Baptiste était celui qui préparait. Parce que il y avait besoin de cette préparation. Nous devons nous tenir prêts quand Jésus arrivera. Nous allons lire le deuxième texte qui se trouve dans Matthieu 25. Les versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : voici l'époux ! Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent : non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Troisième question ce matin. Ta lampe est-elle vide ou pleine ? Ta lampe, c'est ta vie. Nous avons tous une lampe. Mais cette lampe, pour briller, elle a besoin de cette huile, sinon ce n'est qu'une coquille vide. Nous avons tous construit une vie, elle est faite de nos expériences, de nos biens, de nos victoires, de nos défaites, de tout ce parcours qu'on a pu vivre, plus ou moins difficile, mais ce que nous avons construit vis-à-vis de l'extérieur Est-ce que nous y avons mis quelque chose à l'intérieur? Est-ce que tu te promènes dans ta vie chrétienne avec ta lampe, ton formalisme, peut-être même tes principes? Mais est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui permet à la lumière de briller? As-tu dans ta lampe l'huile de l'intimité avec Jésus? Ou est-ce qu'au contraire, tu as l'impression que tu vis une vie très active peut-être? Il y a beaucoup de choses, peut-être même que tu es engagé dans le ministère ou dans une œuvre, que tu y mets ton temps, ton énergie, mais pourtant à l'intérieur, il y a du vide. Tu as l'impression qu'il y a du vide. Et je connais des ministères qui ont pignon sur rue, mais qui à des moments étaient tellement dans leurs activités qu'au jour où les choses tournent pas bien, que certaines choses leur sont enlevées, ils s'aperçoivent soudainement qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien. Que finalement, ils ont une sensation de vide. C'est ce qu'on appelle le burn-out, ou la dépression plutôt. C'est-à-dire ce moment où on a l'impression qu'on a perdu le sens des choses. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi j'ai connu le burn-out. Un moment où tout ce qu'on a pu construire n'est plus en fait, et on a l'impression, on se retrouve face à nous-mêmes, et là ça sonne creux un peu. Mais Jésus est là, il veut te remplir. Les jeunes filles insensées ont rempli leur vie avec du vide. Les œuvres mortes de la chair, la recherche du succès, vouloir être aimé, vouloir être quelqu'un, l'abondance des plaisirs de ce monde, des biens matériels qu'on a accumulés, une notoriété qu'on s'est construite, des biens dans lesquels on a investi beaucoup de temps et d'argent et qu'on ne nous arracherait pour rien au monde. Mais toutes ces choses, au regard de l'éternité, ont si peu de valeur. Les jeunes filles sages ont rempli leur vie avec les affections spirituelles pour Jésus. Elles avaient dans le cœur le désir de rencontrer l'époux. Dans cette parabole, Jésus se présente comme un époux, comme un Dieu relationnel, avec des désirs, avec des affections. On dit souvent, pour ceux qui étudient les paraboles, ça fait partie des paraboles de la fin des temps, Matthieu 24 et 25. On dit que Jésus se présente sous trois formes: le roi, l'époux et le juge. Et dans cette parabole-là, il se présente comme un époux. Viens à ma rencontre. La communion, le désir que les jeunes filles avaient de rencontrer l'époux était plus fort que le désir de vaquer à leurs occupations. Elles ont pris du temps pour préparer leur huile dans des réserves qui durent. Elles n'ont pas attendu le dernier moment, ces moments de crise, quand les moments de crise arrivent. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux réactions très différentes. Il y a une soudaineté dans la venue de l'époux. Ça y est, enfin, tout le monde s'est endormi, puis d'un coup, ça y est, ah bon, ça y est, c'est vraiment le jour. Et il y a deux réactions très différentes. Celles qui n'ont pas de réserve, c'est quoi? C'est la panique. Ah! Comment je fais? Et les sages, elles, au contraire, elles ont compris. Elles ne vont pas partager leur huile. Parce que l'huile de l'intimité, ça ne se partage pas. C'est trop tard. Celles qui sont sages, elles ont l'air de savoir ce qu'il faut faire. Elles ne sont pas prises de court. Leur intimité avec Jésus, au contraire, elles sont dans le moment, enfin, ça y est. Et moi, je ne sais pas vous, mais c'est très révélateur ce qu'on vit en ce moment. Les temps de crise, comme nous vivons en ce moment, là c'est une crise sanitaire, on va dire. Il y en a d'autres, il y a eu, rappelez-vous, hein, il y a eu la grippe A, il y a eu le SRAS, il y a eu les attentats en 2015. Des crises et des crises, ce monde connaît des crises et il en connaîtra de plus en plus et de plus en plus fort. Mais comment nous réagissons est très révélateur de là où nous en sommes dans notre intimité avec Jésus. Si on se met à paniquer, à être dans la crainte, ou est-ce qu'au contraire on se dit « Ah, j'attendais, je ne veux pas dire j'attendais ce moment, mais presque, je sais ce qu'il faut faire. Il faut que je donne mes affections à Jésus et que je brille dans ce moment. C'est un moment pour briller. Mes amis, ce genre de crise, c'est un moment pour l'Église, pour briller de Jésus. La lampe va se voir. Je suis un peu affligé. Mais je vais trop sur les réseaux sociaux, c'est pour ça. Ça m'afflige, ça me consterne. Je suis consterné par les réactions dans ce genre de situation, et des chrétiens en particulier, évidemment. Je suis souvent consterné. Donc là, vous avez vu, il y a une église qui a été touchée à Mulhouse, et je suis consterné des réactions. Je vais pas leur donner plus d'importance qu'elles ont, mais... Mais nous ne pouvons pas réagir comme le monde à ce qui se passe. Nous devons regarder à Jésus. Et pour ça, nous devons avoir un cœur qui est prêt, qui a été trempé dans l'huile de la prière, de l'intimité avec Dieu. C'est l'époux qui doit occuper nos pensées. C'est l'époux qui doit occuper nos cœurs et l'ennemi fait tout. Et je me confesse à vous, cette semaine, ça n'a pas été le cas pour moi. Des moments où ce n'était pas l'époux que j'avais dans mon cœur. C'était autre chose, j'avais peur. Alors j'ai dû plier le genou et dire non Seigneur. Je veux focaliser mes pensées sur toi. Et on doit penser à Jésus, même en temps de crise, et j'allais même dire, surtout en temps de crise. Nous sommes les amis de l'époux. Les chrétiens qui sont attachés à l'agneau, amoureux, le suivent partout où il va. Ils réagissent en temps de crise par une foi solide, fondée sur le rocher. Je ne vous dis pas que vous ne devez pas, que si vous avez eu peur, c'est grave, non. Vous pouvez avoir une réaction de peur, mais ce que je veux dire, c'est que ne laissez pas cette peur décider de vos actes, de vos paroles. Tournez vos regards vers Jésus. L'intimité avec lui, c'est fondamental. C'est ça qui fera la différence dans les temps difficiles. L'intimité, vous savez comment ça s'écrit ? T-E-M-P-S. L'intimité s'écrit temps. L'intimité, c'est passer du temps avec Jésus. Quand nous avons passé du temps avec Jésus, nous remplissons nos lampes, nos vases, de l'huile de sa présence. Le carburant pour briller. Et on a fait une réserve, non pas de choses périssables, mais de choses éternelles. Tant qu'il fait jour, la lumière d'une lampe ne se voit pas beaucoup. Mais quand il fait nuit, elle est claire. Et la réserve d'huile qui semblait secondaire à certains devient soudainement capitale parce que sinon notre lumière est fragile et elle s'éteint bien vite comme un souffle. Jésus a dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette parabole se termine de manière assez dramatique. « Je ne te connais pas. » C'est une phrase terrible. Ça sonne comme une sentence. Il est trop tard. Le temps est fini. Et beaucoup se sont laissés surprendre. Est-ce que vous sentez l'urgence dans ce texte? À quel point Jésus presse, nous presse de ne pas nous laisser surprendre? Bien sûr, toutes les jeunes filles se sont endormies. Nous sommes tous soumis à la corruption de cette vie terrestre. On ne sera pas épargné par les détresses. On ne sera pas épargné par les épidémies, par les catastrophes. Mais nous avons une espérance. C'est le Christ et l'attente de son retour. Nous serons maltraités, nous aurons des afflictions, et s'il n'y a pas assez d'huile dans nos lampes, nous allons craquer. Ce sera trop dur. Beaucoup vont renoncer à la foi. As-tu assez d'huile d'intimité dans ta lampe pour tenir jusqu'au bout de la nuit? Et pour ceux qui auront tenu bon, dans la foi, le banquet des noces. Enfin, l'enjeu d'aujourd'hui, connais-tu Jésus et Jésus te connaît-il? Peux-tu dire que toi et lui, vous êtes des amis intimes? Si ce n'est pas le cas, alors c'est le moment, c'est maintenant que ce désir s'allume dans ton cœur. Va à la rencontre de l'époux. Moi, je sais que quand je mourrai, je rencontrerai Jésus face à face. Et je n'ai pas peur. Ouais, je ne vais pas faire le fanfaron. Hein. J'aimerais bien que ça se passe vite et sans douleur. Hein. Mais j'ai l'assurance que je vais voir mon Sauveur. La mort m'est un gain. Pour un chrétien sauvé, né de nouveau, qui a de l'huile dans sa lampe, mourir n'est pas un problème, c'est une délivrance, c'est le début de sa vraie vie. Quand je rencontrerai mon Jésus face à face. Veille donc, et je t'en conjure ce matin, veille avec attention sur ton âme, sur ta vie de tous les jours, sur ta relation avec Jésus. Prends cela au sérieux, sois gardien de ton âme. Les changements arrivent, le vent est en train de tourner. Vous ne pouvez pas le nier, nous savons tous. L'époux arrive. L'époux arrive. Délivrance pour ceux qui lui auront donné leur vie. Et jugement pour les autres, pour ceux qui auront été négligents. Je ne parle pas d'œuvre, je ne parle pas de paraître. Peut-être que tu penses ne pas être quelqu'un de bien. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus vient aussi pour toi. Il ne vient pas pour les gens parfaits, il vient pour les petits, les affligés, en réalité tous ceux qui se confient dans sa grâce. Le brigand sur la croix avec Jésus a mieux valu que la quasi-totalité des responsables religieux de cette époque-là. Tu n'es pas disqualifié. C'est maintenant que tu peux choisir Jésus. Nous ne savons pas quand il arrivera, ni le jour ni l'heure. Mais il est dit aussi que ce sera comme au jour de Noé. On sera tous en train de faire la fête, de vaquer à nos occupations. Et soudainement, ça va venir. Ne nous laissons pas surprendre. Sois attentif, sois comme un disciple dont l'oreille est prête. Écoute ce que dit l'Esprit ce matin. Jésus vient. Regarde comme il est en train de transformer cette génération. Regarde comme des enfants commencent à dire, nous voulons suivre Jésus. Nous voulons être baptisés. Oups. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Des enfants de 10, 12 ans qui commencent à dire, je veux me faire baptiser. À génération consacrée, on voit que Dieu est en train de faire quelque chose. Que Dieu est en train de toucher des jeunes cœurs tellement au-delà de ce que même nous, nous avons pu vivre. Ils font des rêves, ils ont des visions. Ils choisissent Jésus radicalement. Ils sont dans une époque où tout autour d'eux les attire vers le monde sombre, mais eux, ils tiennent bon. Déjà, ils brillent. Ils sont comme des Jean-Baptiste. Ils préparent le chemin du Seigneur. C'est une génération de Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ils commencent déjà à voir, ils entendent, ils prophétisent sur leur génération. Ils sont à Christ. Et nous, et toi, entends-tu, vois-tu ces choses ? Est-ce que tu te tiens prêt à être bousculé par le Seigneur ? Ne te laisse pas endormir par les réseaux sociaux. Et ça, je me le dis à moi. Arrête de regarder l'agitation autour de toi. Regarde à Jésus, mets ta confiance en lui. Il mène ta foi à la perfection. Mais alors, que devons-nous faire pour être prêts? Va à la rencontre de l'époux, je t'en supplie. Prends du temps avec Jésus, chez toi. Prends un temps chaque jour. Tu prends la Bible, tu fais comme tu veux, tu vas dehors. Mais prends du temps avec Jésus. Ce temps, c'est le remplissage de ta lampe. Ta prière personnelle, viens à la maison de prière. Comme ça, tu mettras du temps à part avec d'autres. Ça nous encourage, on s'encourage les uns les autres. Quand tu auras à nouveau les 3 jours de jeûne, viens aux 3 jours de jeûne. Tu travailles, pose des congés. Viens dans l'intimité avec ton Dieu. C'est maintenant. Que devons-nous faire ? Tu as plus que ce qu'il faut pour vivre ? Alors partage ce que tu as. Tu as de l'argent de côté ? Investis dans des ministères, dans des jeunes qui se lancent, qui veulent se lancer à plein temps dans le ministère. Soutiens-les, accueille-les dans ta maison. Soutiens. Ne retiens pas ce que le Seigneur t'a donné, donne-le. Tu as du pouvoir dans n'importe quel domaine, tu as un ministère, une fonction dans ton entreprise. Sois intègre. Ne profite pas de ton pouvoir pour faire les choses que les autres ne voient pas, mais que Dieu voit. Ne mets pas des fardeaux sur les autres. Enlève les fardeaux des autres. Sois une bénédiction, une terre fertile pour ceux que Dieu t'a confiés. Sois un exemple pour eux. Que devons-nous faire ? Là où tu es, sois témoin du Christ. Parle de ce qu'il fait dans ta vie sans honte. Témoigne du Christ, que les circonstances soient favorables ou non. Suis les enseignements de ce livre, mets-les en pratique. Porte ta croix et suis le Christ. Suis l'agneau partout où il va.